Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du premier commandement de Dieu. Dis à ton voisin le premier commandement de Dieu. Le passage que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14, nous décrit une église, appelée l'église de Laodicée. En fait, depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, il y a des lettres qui ont été envoyées à cette église. Nous étions vers la fin du premier siècle et l'apôtre Jean, qui était le dernier apôtre vivant, a été mis en exil à cause de l'évangile sur une île appelée Patmos. Là, le Seigneur va se révéler à lui et va lui donner ce fameux livre qu'on appelle Apocalypse. Pour commencer le livre, le Seigneur, après lui avoir donné des révélations, va lui donner d'écrire sept lettres à sept églises qui se trouvaient en Asie mineure. Ça veut dire dans la Turquie actuelle. Et donc, vous avez l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, ainsi de suite. Et il va terminer son courrier en envoyant aux églises de Laodicée. En vérité, ces lettres étaient des lettres qui étaient envoyées à ces églises pour les exhorter par rapport à des problèmes que ces églises avaient. Mais la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre édification. Alléluia. Nous voyons aussi quelquefois dans ces églises, un avertissement et un conseil que le Seigneur donne à son peuple par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Certains théologiens voient dans l'église, dans les sept églises qui sont citées, dans les sept lettres aux églises, sept temps par lesquels passera l'église. Alléluia. Et à chaque époque donnée, va correspondre à un type d'exhortation. Il y a diverses sortes d'interprétations en ce qui concerne les lettres aux églises. Mais n'empêche, il y a un message que Dieu nous donne et qui est édifiant pour nous tous. Alléluia. Donc nous arrivons à l'église de Laodicée qui est la dernière église. Et Dieu va donner un conseil. Moi, je crois que nous sommes à la fin des temps et que le retour du Seigneur est proche. Alléluia. Et voilà ce que Dieu dit à l'église de Laodicée. Que la dernière lettre. Dieu dit à cette église que, pour résumer, il n'est pas trop content de cette église. Il dit à cette église, tu n'es ni chaude ni froide. Tu es tiède. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il dit de cette église dit qu'elle est riche. Donc on avait affaire à une église qui avait beaucoup d'argent. Sur le plan humain, l'église était bénie. Elle avait de l'argent. Il dit de cette église, tu dis que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Donc, financièrement parlant, ses frères étaient bénis. Dieu ne dit pas que cette église avait une fausse doctrine. Il y avait des fausses doctrines qui s'étaient introduites, mais c'était quand même l'église du Seigneur. Alléluia. C'était l'église du Seigneur, et cette église avait une attitude, elle n'était plus réveillée. Mais quand on la regardait, on ne pouvait pas aussi dire que c'était une église morte. C'est ce qu'il veut dire par là, tu n'es ni chaude, ni froide. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous considérons l'église des derniers temps, l'église d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'église est réveillée, et on ne peut pas dire aussi qu'elle est morte. Parce que nous connaissons des manifestations dans nos assemblées qu'il y a quelques époques, ce qu'on appelle des véritables églises mortes ne voyaient pas. Le ministère de la prophétie, les paroles de connaissance, des guérisons extraordinaires, la visitation de Dieu. Mais aussi lorsque nous considérons certains autres éléments dans la vie des enfants de Dieu, nous nous posons la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment un réveil? Parce que beaucoup dans nos actes, dans nos comportements, ne témoignent pas de la vie de réveil. Ceux qui savent ce que c'est qu'un réveil spirituel, vous avez non seulement une manifestation extraordinaire de puissance, mais vous avez aussi la vie, le caractère des gens qui a changé. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur dit à cette église, comme tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. C'est-à-dire, tu n'es pas réveillé, tu n'es pas mort. Tu n'es pas une église morte. Il y a des choses qu'on trouve en toi qui sont quelquefois des éléments du réveil. On peut dire que c'est un réveil. Mais il y a d'autres éléments qui se manifestent en toi qui montrent que tu n'es pas réveillé et que tu n'as pas compris le message du Seigneur. Cette église était une église prospère. Je crois que dans les derniers temps, parce que les chrétiens sont en train d'écouter les principes de prospérité et de réussite financière, les chrétiens vont beaucoup devenir riches. Beaucoup de gens vont s'enrichir, mais sans avoir compris l'essentiel de l'évangile. Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Leur richesse devait normalement être un signe de l'approbation de Dieu. On n'a pas dit de cette église qu'ils adoraient le diable. On n'a pas dit de cette église qu'ils adoraient Satan. On n'a pas dit de cette église qu'ils étaient des païens. On dit qu'ils sont des chrétiens, mais qu'ils ne sont ni réveillés ni morts. Des enfants de Dieu. Et il est dit que ces enfants de Dieu sont prospères. Ils ont réussi financièrement. La réussite financière n'est pas toujours la réussite divine. Il est vrai que celui qui est béni, celui qui cherche le Seigneur, sera aussi béni. Mais ce n'est pas parce qu'on est béni que ça veut dire que Dieu est avec nous. Amen. Du moins, pas le mot bénédiction. Ce n'est pas parce qu'on réussit financièrement, parce que la bénédiction c'est vraiment de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est riche financièrement que nous sommes bénis, que nous sommes avec Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui quelquefois peut nous séduire. Et c'est de cela que je voudrais parler. Nous ouvrons encore nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 11. Il est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous pouvons reprendre ça dans une autre version. Il est plutôt dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà un signe que nous donne encore le Seigneur. Il dit que lorsque les temps vont approcher de la fin, il y a une chose qui va disparaître de la maison de Dieu, il y a une chose qui va disparaître du monde, ça s'appelle, c'est l'amour. Dieu dit que l'amour va disparaître à cause du développement du péché. Mais le Seigneur dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, donc par rapport à l'amour, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Et je veux rappeler une chose en ce qui concerne l'église de Laodicée que nous disions tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'église de Laodicée en ce qui concerne son jugement? Il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu dit qu'il va rejeter cette église. Alléluia. Et j'essaie de comprendre longuement qu'est-ce qui manquait à cette église, qu'est-ce qu'elle n'avait pas. Il n'est pas dit de cette église que c'était une église qui était hyperbement plongée dans l'iniquité, dans le péché. Auquel cas, ça aurait été facile de comprendre la conclusion du Seigneur. Il leur a dit, parce que tu es froid, je te vomis de ma bouche. Mais il dit de cette église qu'elle est tiède. Elle a manifesté des choses de Dieu. Et elle manifestait aussi des choses du monde. Il y avait une confusion. Et Dieu dit, de même que je vais vomir aussi une église qui est froide, de même, toi qui es tiède, je vais te vomir. Il te manque quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il manquait à l'église, l'Odyssée, symbole de l'église des derniers temps? Il manquait ce que le Seigneur dit ici, l'amour. Et je vais vous montrer au travers de la parole de Dieu, et que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir vos cœurs, mes frères, pour comprendre une chose. Si l'Église n'a pas l'amour, si nous ne recherchons pas ce que Dieu nous a demandé d'avoir premièrement, Dieu va nous vomir. Et Dieu le montre clairement dans les Écritures. C'est clair. La chose qui a amené Jésus-Christ à venir dans ce monde, c'était l'amour. La Bible dit, Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, comme l'église de l'Odyssée, nous pouvons nous affairer à faire beaucoup de choses. C'était une église qui était prospère. Peut-être que tous les pasteurs roulaient dans des Mercedes. C'était une église qui dit que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Ce n'est pas nous aujourd'hui, peut-être ici, n'est-ce pas? Parce que vous en avez encore besoin de beaucoup, n'est-ce pas? On doit finir le temps, on va climatiser ici, gloire à Dieu. Alléluia. Et quand même l'Éternel vous donnera d'arriver à cette dimension, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alléluia. Parce que la prospérité n'est pas mauvaise, c'est une bonne chose. Mais, c'est que l'Église avait oublié l'essentiel. Alléluia. Alléluia. L'essentiel. Ce que j'appelle le premier commandement. Le premier principe de Dieu. Le premier commandement. Que nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 34. Il est dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Des hommes se sont approchés de Jésus pour lui poser la question, Seigneur, quel est le plus grand? Quelle est la chose la plus importante? Dieu dit, voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta capacité, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, quand on parle du premier commandement, il s'agit des deux. Parce que le Seigneur dit que le second commandement est semblable au premier. Semblable, ça veut dire aussi identique. Semblable, ça veut dire ici très ressemblant. Semblable, ça veut dire très lié. Alléluia. Ça veut dire donc le premier commandement, c'est que tu vas aimer Dieu de toutes tes capacités, de tout ton pouvoir, de tout ton zèle, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second premier commandement qui va ensemble, c'est que tu aimeras ton prochain, alléluia, comme toi-même. Il dit, toute la loi et les prophètes sont liés à ces deux principes. C'est celui-là par lequel nous sommes sauvés aujourd'hui. L'amour. Dis à ton voisin l'amour. Nous aimer les uns les autres. Dieu dit que vers la fin des temps, le péché va tellement se développer que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Tellement il y aura le péché, tellement il y aura de la méchanceté dans l'humanité, tellement il y aura des haines, tellement il y aura des blessures intérieures, tellement il y aura de problèmes, que ceux qui étaient capables d'aimer vont arrêter d'aimer. L'amour est le signe distinctif manifeste des chrétiens. Ce que Dieu définit par amour ne se trouve que dans l'église. Alléluia. Alléluia. Alors quand le Seigneur dit que l'amour va disparaître, il a plutôt référence à l'église parce que c'est cet amour-là que nous devons manifester au monde et que pour que le monde puisse connaître Christ et se tourner vers lui. Donc quand Dieu dit que l'amour va partir, ça concerne d'abord l'église. Mais voilà ce que le Seigneur te dit, c'est que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors, mais qu'est-ce que le péché va faire disparaître du cœur des chrétiens? Qu'est-ce que le péché va produire? Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ok. Voilà ce que Dieu dit par rapport à l'amour. Et vous allez comprendre en fait ce qui est arrivé à l'église de l'Odyssée. Pourquoi je dis que l'église de l'Odyssée, qui va être vomie par le Seigneur, manquait d'amour. En fait, quel était son problème? Il a dit, au verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'en fait pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Ou bien, parenthèse, l'amour ne se met pas en colère. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties vont s'arrêter. Les langues cesseront. La connaissance va disparaître. Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Dans cette version, c'est écrit charité. Voilà ce que Dieu dit par rapport à l'amour. Contrairement à beaucoup d'autres choses dans l'écriture, la manifestation de l'amour est très bizarre. C'est que vous pouvez manquer d'amour et puis voir se manifester dans votre vie spirituelle beaucoup de résultats avantageux. Et c'est ce qui fait que l'amour est très séduisant. C'est ce qui fait que le manque d'amour est une séduction. Voilà comment le Seigneur commence. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes ou des anges, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un homme peut parler en langue. Tu peux avoir le plus puissant don des langues jamais entendu. Mais le Seigneur dit, quand bien même tu vas parler la langue des hommes, ça veut dire quoi? Quand l'onction est descendue le jour de la Pentecôte, les apôtres sont mis à parler en langue. Et lorsqu'ils parlaient en langue, ils ont parlé des langues qui étaient terrestres. Ils n'étaient pas chinois, ils ont commencé à parler en chinois. Bon, c'est pas en chinois, ils ont parlé ce jour-là. C'est une façon de parler. Amen. Tu ne comprends pas l'anglais, tu te mets à parler la langue en anglais. Dieu dit, tu peux avoir ce don de langue. Je suppose que si nous voyons un frère arriver dans cette église et qui n'est jamais parti, qui n'a jamais appris l'arabe, qui n'est jamais parti en Chine et qui se met à prier en langue en chinois, nous allons supposer que cet homme-là est vraiment, vraiment, vraiment en communion avec Dieu. Il est vraiment puissant. Il est tellement rempli du Saint-Esprit. Parce que nous tous, quand on parle en langue, c'est Riba Shakaraba. C'est quelque chose, c'est la langue des anges. Mais pour lui, là, Dieu l'a touché comme le jour de la Pentecôte. C'est merveilleux. Voilà un homme de Dieu. Mais 1 Corinthiens 13 nous dit, quelqu'un que peut parler en langue autant, mais ça ne veut même pas dire qu'il a l'amour. Et Dieu dit, s'il n'a pas l'amour, ce qu'il est en train de faire, ce n'est rien. Ça veut dire rien. Ça veut dire rien. Rien, ça veut dire zéro. Quand c'est un, on dit un. Quand c'est rien, c'est rien. Ce qui veut dire que c'est possible qu'un homme soit rempli du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte et n'ait pas l'amour. C'est possible. Dieu dit, quand je vais avoir la prophétie, il ne dit pas une prophétie qui vient du diable. Quelqu'un peut recevoir un des plus puissants ministères prophétiques jamais reçus. Tu annonces tout ce qui va arriver et rien n'arrive sans que toi tu ne l'aies vu. Et les gens viennent te consulter. Tout ce qui va arriver, tu prophétises. Ainsi par l'Éternel, ces choses seront là. Et les choses arrivent. Quelle considération l'humanité aura pour toi et les frères, ô grand homme de Dieu. Tu es tellement certain que cet homme-là, il dort pratiquement avec Jésus et le Saint-Esprit. Sa prophétie est pour toi un signe manifeste de son intimité, de sa communion, de sa vie de prière. Et pourtant Dieu dit, un homme peut atteindre telle dimension prophétique que ne pas avoir l'amour. Et Dieu dit, quand bien même il atteindrait une telle dimension prophétique, s'il n'a pas l'amour, son don de prophétie n'est rien. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que le verset est en train de dire. Dieu dit encore, il dit, quand quelqu'un même va avoir la foi jusqu'à déplacer une montagne, ça c'est extraordinaire. Parce que nous, on n'a pas encore eu la foi. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu cette foi et je ne l'ai pas encore vue à Abidjan ici. Une foi qui est capable de déplacer une montagne. Alors, je suppose que le jour où je verrai un serviteur de Dieu de la sorte, j'aurai l'impression d'avoir Dieu sur la terre. Un homme capable de s'arrêter et dire, que la pluie tombe, et à l'instant la pluie tombe, que la pluie s'arrête, ça s'arrête. Un homme capable de s'arrêter pour dire, au nom de Jésus, que cette chair se lève et se déplace, et va se poser là. Si nous voyons un tel individu à Abidjan, toutes nos églises vont se vider pour aller vers ce pasteur pour dire, quand tu le vois, tu as vu Dieu. Tant il est puissant. Dieu dit, ta foi peut même aller jusqu'à déplacer une montagne. Pas une chair, mais je dis une montagne. Mais Dieu dit, quand même ta foi atteindrait ce niveau, tu peux ne pas avoir l'amour. Ça veut dire, un homme peut manifester le don de miracle comme tu n'as jamais vu. Mais ça ne veut même pas dire qu'il agréable à Dieu. Dieu dit, quand il n'aurait pas l'amour, malgré son don, tout ce qu'il est en train de faire, c'est zéro. Et le Seigneur va encore plus loin. Il dit, quand quelqu'un même va aller jusqu'à donner tous ses biens, ça c'est le plus troublant, pour la nourriture des pauvres, s'il n'a pas l'amour, ce qu'il fait n'est rien. J'ai dit, mais quelqu'un qui est capable de vider tout son compte pour qu'un pauvre ait à manger, la Bible dit tous ses biens, pas une partie, pour que le pauvre ait à manger, qui fait du social, qui aide les gens. Je suis convaincu que nous tous dans l'église nous l'avons dit, cette sœur-là aime tellement ce frère-là l'amour. Dieu dit, quelqu'un peut faire ça et il peut ne pas avoir l'amour. Pas la moitié de ses biens, tous ses biens. Et Dieu dit, quand même, quand il n'aura pas l'amour, ce qu'il a fait n'est rien. Alors, c'est quoi aimer? Alléluia. Le problème donc de l'amour, c'est que l'amour, le manque d'amour, peut vous laisser évoluer dans votre vie spirituelle, atteindre des dimensions extraordinaires. Le manque d'amour ne va pas vous empêcher d'être rempli. Le manque d'amour ne va pas vous empêcher d'être exaucé. Le manque d'amour ne va pas empêcher de faire des miracles. Le manque d'amour n'empêchera pas de manifester l'onction de Dieu. Le manque d'amour n'empêche pas ça. Alléluia. Le péché, si, il empêche, mais pas le manque d'amour. Pas le manque d'amour. C'est ce qui fait que l'amour est très subtil. On peut avoir l'impression d'être profondément en communion avec Dieu, mais n'avoir rien fait. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 13 est en train de dire. C'est pour ça que l'église de Laodicée n'a rien compris. Ils manifestaient les dons de l'esprit. Ils avaient la puissance de Dieu. Ils priaient et étaient exaucés. C'est pourquoi ils étaient devenus prospères. Ils appliquaient les principes de la prospérité et ils réussissaient dans leur projet. Et on vient leur dire que vous êtes pauvres, misérables, aveugles, nus. Je vous vomirai de ma bouche. Il leur manquait ceci. Il leur manquait ce que 1 Corinthiens chapitre 13 est en train de décrire. L'amour. Alléluia. Le manque d'amour ressemble à quelqu'un qui fait des efforts pour aller vers Dieu. Venir à l'église tous les dimanches. Plus 1. Participer dans un département de l'église. Plus 10. Ça fait 11 points. Bénir les hommes de Dieu en faisant des offrandes. Plus 30. Tout ça. Parler en langue et prophétiser dans l'église. Plus 100. Chanter à la chorale, meilleur chantre, consacré à Dieu, quelqu'un qui veille 24 heures sur 24 pour la maison de Dieu, plus 1000. Et voilà, tout est bonus pour aller au paradis. Et on vient, on regarde, y a-t-il de l'amour? On dit non. On multiplie tes 10 000 points par zéro. Le verset 10 est égal à zéro. Tu peux tout avoir, mais le Seigneur dit, si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais n'est rien. Vous savez, quand je dis ça, je veux qu'on puisse comprendre profondément et qu'on sache qu'il faut rechercher ça ardemment. Nous sommes en train de jouer avec ce que Dieu nous dit lorsqu'il nous dit que c'est le premier et le plus important de tous les commandements. Comme nous évoluons dans d'autres niveaux, à d'autres niveaux, comme nous sommes en train de grandir dans d'autres dimensions, nous sommes convaincus que Dieu est pleinement avec nous, même si nous n'avons pas l'amour, parce que quand nous prions, nous sommes exaucés. Alors, qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas l'amour? Dieu avec moi, mon frère. Quand nous prions, les malades sont guéris. N'est-ce pas la preuve que Dieu nous approuve? Mais Dieu dit que lorsqu'on n'a pas l'amour, on peut voir toutes ces choses se manifester. Et tout ce qu'on aura pu faire, on a pu faire, est égal à zéro. C'est pas moi qui le dis, on l'a lu ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit rien. Il aurait pu dire ce que tu fais est peu. Sans l'amour, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Il dit c'est rien. Dieu aurait pu dire, au moins c'est mieux. Au moins c'est mieux. C'est pas suffisant. Des choses comme ça, on aurait pu comprendre. Mais il dit rien. Alors Dieu va définir ce que c'est que l'amour. Il dit, l'amour est patient. Comment savoir que j'ai l'amour, j'ai pas l'amour? L'amour est patient. Ça veut dire que lorsque quelqu'un commence, quand quelqu'un manifeste le comportement de l'amour, c'est quelqu'un qui est patient dans la vie. Patient. Il sait attendre. Cela veut dire que si quelqu'un n'est pas patient, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour. Donc, un impatient peut parler en langue, peut prophétiser, peut faire des miracles. Mais comme il est impatient, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour. Et comme il n'a pas l'amour, tout ce qu'il fait n'est rien. Si tu es impatient, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Si tu ne sais pas attendre, quand les gens te font attendre, tu es nerveux, tu leur parles mal. Quand tu es dans un embouteillage, tu as envie d'insulter les gens parce qu'ils ne font pas vite, parce que de nature tu es impatient, la Bible te dit que tu n'as pas l'amour. Il dit, l'amour est patient. Alléluia. L'amour sait attendre. L'amour est patient. L'amour est patient envers les autres. Celui qui manque de patience n'a pas l'amour. Mais il peut avoir les dons. Mais il peut être le plus zélé dans l'église. Mais il peut faire beaucoup d'œuvres spirituelles. Il peut même être exaucé dans tous ses sujets de prière. Parce que pour être exaucé, ce qu'il faut, c'est la foi. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demandez, si vous avez la foi, vous allez l'obtenir. Il n'a pas ajouté à ça, si vous avez la foi et l'amour, vous obtiendrez. L'amour n'est pas une condition d'exaucement. L'amour n'est pas une condition d'exaucement. C'est la foi qui est la condition pour l'exaucement. Donc, mais négliger l'amour est fatal. Négliger l'amour est fatal. Parce que ça équivaut à que tout ce que ta foi, ton zèle, ta consécration a pu apporter sont égales à zéro sans le caractère de l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Quelqu'un qui a l'amour, il est bon. Donc vous voyez, je sais qu'il y a des gens qui peuvent distribuer toute leur nourriture pour le bien des pauvres, c'est pas ça? Mais ils peuvent être impatients. Tu peux faire beaucoup de bien aux gens, mais tu es impatient. Dieu dit, tu n'as pas l'amour. Tu fais beaucoup d'offrandes, mais tu es impatiente. Tu n'as pas l'amour. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne convoite pas. L'amour ne regarde pas le succès des autres et puis elle est jalouse. Non, elle est jalouse. Non. Si tu manifestes ce type de sentiment, c'est que tu n'as pas l'amour. Si lorsque les gens rendent des témoignages qu'ils ont été bénis, toi, ça te fait mal, c'est que tu manques d'amour. Même si apparemment tu fais comme ça, ça te fait pas mal. Parce que, mais Dieu te connaît. Quand il parle, ça te fait mal. Tout à l'heure, à l'église, on recevait le révérend Kwame Félix qui prêche chez moi là-bas. Et il rendait un témoignage qui m'a beaucoup peiné. Il dit, un frère avait été pris dans un bon boulot avec un bon poste. Et il est venu rendre un témoignage à l'église. Et parmi les gens, il y a un ancien qui écoutait. Il a rendu son témoignage. Tout le monde était content. On a acclamé le Seigneur. Lui va le voir à la fin. Ah, mon frère, c'est bien. Ah, vraiment, que Dieu soit béni. Mais dans son cœur, il était jaloux. Il va faire tout pour prendre. Il dit, mais donc ton bureau là, où est le numéro de téléphone du bureau? Pourquoi on peut t'appeler là-bas? Il prend le numéro du bureau, son numéro personnel. Et puis, le même dimanche là, il appelle la patronne du. Il appelle là-bas, il appelle la patronne. Et puis il raconte, voilà, le monsieur là, tu l'as appris, il est venu raconter n'importe quoi ici à l'église. Le même dimanche là, même la femme l'a appelé. Elle dit, oui, c'est toi qui vas gâter mon nom dans ton église, dans ta religion là-bas. Elle dit, considère que ton boulot est perdu. Bon, ça c'est un comportement extrême. C'est-à-dire, lui là-même, c'est le diable. Ça c'est un sorcier. Ça c'est la sorcellerie. C'est vraiment là. C'est-à-dire que c'est le diable même. Ce monsieur là, il n'est même pas converti. Mais ça peut être ainsi. Ton comportement peut envier. Et tu le sais, et Dieu le sait. Même si apparemment tu fais des bonnes œuvres, Dieu sait ce que tu penses. Il dit, l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Si quelqu'un se comporte de façon malhonnête dans les affaires, tu triches un peu pour avoir un peu plus d'argent, tu n'es pas honnête à 100%, c'est que tu manques d'amour. Et si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu peux faire, c'est rien. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Même si une injustice t'arrange, si tu te réjouis parce que l'injustice t'arrange, c'est que tu manques d'amour. Lorsqu'on a tué Saül, qui poursuivait David pour le tuer, David a été le plus triste. Pourtant, la mort de Saül l'arrangeait. Pourtant, la mort de Saül lui ouvrait les portes à la royauté. Mais il a tué celui qui est venu raconter que celui qui a tué Saül. Tellement il était peiné. Il a chanté un chant d'une complainte à cause de ça. Ça, c'est un comportement d'amour. Alléluia. Parce que ce que le monsieur a fait, c'est une injustice. Il a attaqué un oint de Dieu. Amen. Même si un pasteur t'a fait souffrir, Et puis tu vois quelqu'un qui vient, toi tu n'as pas parlé, mais tu vois quelqu'un qui vient qui critique le pasteur. Et puis tu te réjouis, pendant qu'il n'a pas le droit de le faire. C'est un manque d'amour. Tu dis, voilà, mais tu as raison même lui-même. Il n'est pas bien. Ou même tu dis pas, il n'est pas bien, mais tu l'approuves dans son geste. Parce que quelquefois, quand les gens voient que quelqu'un vous a fait souffrir, ils viennent trouver auprès de vous le réconfort pour vous associer, pour critiquer. Quelqu'un qui a l'amour chasse une personne de la sorte. Je ne vais pas m'associer avec toi pour critiquer. Même si j'ai aussi subi cette injustice. Alléluia. Parce que nous n'avons pas droit. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, même si cela l'avantage. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Ou encore, l'amour pardonne tout. Alléluia. L'amour pardonne tout. Quand quelqu'un aime, il pardonne tout. Si tu ne peux pas pardonner à certaines personnes, c'est que tu manques d'amour. Mais tu pourras manifester les dons. Tu pourras être puissamment utilisé par le Seigneur. Mais à cause de ton manque d'amour, alléluia, à cause de ton manque d'amour, tout ce que tu fais n'est rien. Tout ce que tu fais n'est rien. L'amour pardonne tout. C'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? La Bible dit, alléluia, j'aime beaucoup parler du pardon. Le chrétien doit pardonner. La Bible dit que tu seras pardonné à la façon dont tu pardonnes aux autres. Amen. Tu seras pardonné à la façon dont tu pardonnes aux autres. Tu seras jugé comme tu juges les autres. J'ai remarqué que très souvent, nous pardonnons comme pardonnent les païens. Suivez s'il vous plaît, ne vous occupez pas, c'est pas grave. Alléluia. La Bible déclare que l'amour pardonne tout. Jésus a dit, tu seras jugé comme tu juges les autres. Tu seras pardonné la façon dont tu pardonnes les autres. Tu seras mesuré comme tu mesures les autres. Il y a certains, pour le pardon, il y a beaucoup de gens qui pardonnent parmi nous, mais qui sont limités dans le pardon. J'aime parler de ça. Le Seigneur dit, si tu pardonnes trois fois, Dieu aussi va te pardonner trois fois. Dans la prière sacerdotale, lorsque nous faisons la prière que Jésus a appelée à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je veux que vous reteniez ceci. C'est que la grâce et le pardon de Dieu est fonction du pardon et de la grâce que vous manifestez envers les autres. Le premier pardon, lorsque vous venez à Jésus, est gratuit. Dieu ne vous pose pas de conditions. La repentance du début, là. Seigneur, je te demande pardon, j'ai volé, tout ça. Dieu te pardonne. Mais après ça, là, si tu pardonnes aux gens trois fois, et puis la quatrième fois tu agis, Dieu va te pardonner toujours trois fois. La quatrième fois, lui aussi, il va agir. Mais c'est nous qui avons pris comme ça. On dit, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a certains, tu les as blessés une fois à cause de Jésus, mon frère. Je laisse tomber, je te pardonne. Deuxième fois, ah là maintenant, je crois que tu exagères. Mais à cause du Seigneur, je laisse tomber. Troisième fois, mon ami, là, c'est une foutaise. Parce que tu penses que je laisse tomber les choses là, tu vas exagérer pour m'aller marcher sur mon pied. La quatrième fois, bon, chacun a son degré de pardon. C'est deux fois, une fois, ça dépend. La quatrième fois, chacun va réagir de différentes façons. Il y en a, soit ils vont te taper aussi. Certains, ils vont s'éloigner de toi. D'autres vont te classer. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, tu as ta route, lui a sa route. Dans l'église, vous voyez, bonjour, bonsoir, et puis ça s'arrête là. Parce que des gens comme ça, on ne collabore pas avec eux. Comment il peut faire exprès pour m'offenser trois fois? Une fois, il est venu, il m'a parlé mal, je n'ai rien dit. Deuxième fois, il m'a parlé mal, je lui ai parlé, il n'a pas compris. Trois fois encore, il me parle mal. Cet homme-là, nous, on ne peut pas marcher. On peut venir à l'église ensemble, hein, mais je viens, je lui dis bonjour. On dit non, frère, il faut laisser tomber. Tu dis non. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien. Comment se foutre de nous ici? Mais tu sais, quand tu réagis comme ça, Dieu dit, ok, j'ai compris. Un jour, tu vas commettre un péché. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit, je te pardonne. Deuxième fois, le Seigneur te dit, Ça peut être le mensonge. Troisième mensonge, Dieu dit, c'en est trop, tu exagères. Quatrième mensonge, Dieu te classe. De la même manière, tu as classé le frère. Dieu va te classer de la même façon. Si c'est bonjour, bonsoir, Dieu va faire avec toi bonjour, bonsoir.
Alléluia.
Mes amis, c'est vrai. Et tu vas le sentir dans ta communion avec Dieu. Tu vas, dès que tu commences à prier, on dirait le Saint-Esprit, et puis après il s'en va. C'est un bonjour, bonsoir. Tu viens t'asseoir à l'église, au début, l'adoration te prend, et puis après tu es distrait jusqu'à la fin du culte. Dieu est rentré avec toi en bonjour, bonsoir. Il te salue, bonjour, ça va? Et puis Dieu continue son chemin. Il bénit les autres. Tu es classé. Ce que tu as fait, tu vas te faire. Parce que Dieu ne comprend pas que toi, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un quatre fois et puis toi, tu fais quatre péchés. C'est pas possible. Si tu estimes qu'on ne peut pas pécher quatre fois, pourquoi toi, tu fais quatre péchés? Pourquoi? Toi qui as donné la règle que on n'a pas le droit de t'offenser quatre fois, c'est une exagération et c'est une pensée volontaire, manifeste, et c'est une mauvaise foi de l'individu. Tel est ton jugement. Dieu estime que toi, tu ne peux pas faire quatre péchés. Il ne faut pas être contradictoire à ce que tu dis. Tu peux pas faire quatre péchés, c'est-à-dire que tu peux pas faire, tu peux pécher une fois, deux fois, mais quatre fois, toi, tu peux pas atteindre ça. C'est pas possible. Mais pourquoi tu vas pécher quatre fois? Si aucun homme ne peut pécher quatre fois contre toi, sans qu'il ne l'ait voulu intentionnellement et il soit de mauvaise foi, raison pour laquelle tu l'as classé. Dieu considère que toi aussi tu es de mauvaise foi. Raison pour laquelle lui aussi te classe. Ou bien c'est pas normal? Je vais te juger comme tu juges les autres. Tu seras pardonné comme tu pardonnes aux autres. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour pardonne tout. Alléluia. Alléluia. Donc s'il y a des gens qui ont classé des gens ici, à la fin, ça veut dire que tu le salues, mais lui-même il ne sait pas que tu l'as classé. Parce qu'un bon chrétien, il ne te parle pas mal, mais il te classe. Là, c'est la moyenne des chrétiens. C'est-à-dire, toi et puis lui, bon, c'est fini quoi. C'est bonjour, ça va ma soeur, mais c'est fini. Votre amitié d'avant, là, c'est... S'il en est ainsi, que le Seigneur change ton cœur maintenant. Parce que tu as bloqué toi-même tes bénédictions. Toi-même, tu t'es bloqué. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur ne t'écoute plus. Il y en a qui ont 20 péchés de... Après 20 péchés, il pardonne plus. Après 30, chacun à son degré. Dieu aussi va attendre. Si au moins pour toi c'est 300 péchés, ça va plus durer. Mais quand on va arriver à 300, à partir de maintenant, on ne dépasse plus. Amen. Ô enfant de Dieu, comprenons les conseils du Seigneur. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Vous savez, supporter tout, c'est un signe d'amour. Ne pas supporter tout. Le gars qui ne, c'est quelqu'un qui ne supporte pas tout, c'est quelqu'un qui est vexable. Quelqu'un qu'on peut frustrer. Lui, on a tout, il est toujours vexé. Être vexé, c'est être charnel. Frère, quelqu'un qui est vexé. Quand tu viens... Non, là, tu m'as frustré. Je suis vexé. Tu as raison. Mais je vous dis, dans la vie chrétienne, on ne cherche pas à avoir raison. Dieu ne cherche pas à voir qui a raison. Ce n'est pas celui qui a raison qui va aller au paradis. Parce que parmi nous, personne n'a raison. Donc Dieu s'en fout de savoir si tu as raison. Il te dit de supporter, de laisser tomber. Alléluia. Chercher à avoir raison, je vous dis que chercher à avoir raison, ça mène en enfer. Chercher à avoir raison, ça mène en enfer. Vous savez pourquoi Adam et Ève ont été rejetés par Dieu? Ils ont cherché à avoir raison. Vous savez, le fruit qui était interdit par Dieu, comment le fruit là s'appelait? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, c'est le fruit, quand vous le mangez, vous arrivez à connaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Le fruit là, si tu ne le manges pas, en fait, quand tu le manges, tu sais ce qui est raisonnable. Quand Adam et Ève n'avaient pas mangé, ils ne connaissaient ni le bien ni le mal. Ils ne faisaient ni le bien ni le mal. Je crois que j'ai une fois parlé de ça ici. Ils faisaient un autre élément qu'on appelle la vie. C'est là, je vous dis quelque chose, mes amis. Si vous ne comprenez pas, vivez comme d'habitude. Un autre juge est bien enseigné là-dessus. Le bien et le mal sont deux camarades. Le bien et puis le mal, c'est deux camarades. Alléluia. Le bien est bon, il faut faire le bien. La Bible nous exhorte à faire le bien. Le mal n'est pas bon, il conduit directement en enfer. Mais la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'on appelle connaître la loi, connaître les principes. Ça là, ça attire le... La Bible dit que ça va vous donner la mort. Alléluia. Donc, vous voyez, par exemple, je porte une chemise blanche, non? Ça, c'est le contraire direct de la saleté. Mais parmi toutes les chemises, là, parmi toutes les couleurs, quelle est la couleur qui attire la plus la saleté? C'est le blanc. Alléluia. Ils sont opposés, mais ils sont ensemble. Il y a un autre élément que Dieu vous demande d'appliquer qui s'appelle la vie. Il dit, il y avait deux arbres au milieu du jardin. Il y a un fruit qu'on appelait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu a interdit à l'homme de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais retenez bien, dans le fruit, il n'y avait pas seulement le mal. Dans le fruit, il y avait le bien et le mal. Dieu a interdit à l'homme de toucher à ce fruit. Quand l'homme a mangé, il a commencé à acquérir la connaissance et la sagesse pour juger des choses. Et il a jugé que la nudité n'était pas une bonne chose. Et c'est là qu'il a commencé à s'habiller. Et il a eu raison. Il avait raison. La raison pour laquelle Dieu lui a fait une tenue. Amen. Et c'est que c'est quelquefois compliqué à comprendre. Mais Dieu peut mettre un jour, si vous voulez, je vais bien vous expliquer. Si vous ne comprenez pas ça, faites le bien. Faites le bien. Le bien, c'est une bonne chose. Vivez le bien. Faites le bien. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Fais le bien. Alléluia. Voilà. Mais, cherchez à avoir raison. Il cherche à avoir raison. Être vexé, pour revenir à ça, c'est charnel. Il y a un autre élément que Dieu veut qu'il puisse nous conduire. Il y avait un deuxième arbre dans le jardin qu'on appelle le fruit de l'arbre de vie. Dieu veut que nous produisions la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Je suis la vie. La vie, c'est ce qui sauve l'humanité. La vie ne cherche pas à avoir raison. La vie cherche à vivre. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple de la manifestation du bien, du mal et puis de la vie dans les Écritures. Quand vous lisez l'histoire du prophète Élie, lorsqu'il est parti voir la veuve de Sarepta, dans la Bible dit que quand il est parti, Dieu lui avait dit de quitter le torrent de Kérit pour aller. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Élie est allé la voir, la femme n'avait plus rien à manger. Il dit, femme, donne-moi à manger. Elle dit, il me reste tout juste un peu de farine et un peu d'huile. Je vais préparer, mon fils et moi allons manger et nous allons mourir parce que nous n'avons plus rien. Élie s'est arrêté devant la femme et puis lui dit, femme, prépare-moi d'abord à manger. Ce qu'Élie a fait là, ce n'est pas bien. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si nous tous on était là, tous les anciens de l'église, les spirituels, si le pasteur Zandou fait ça, on dit, pasteur, on ne croyait pas que tu pouvais être ainsi. La femme qui n'a plus rien à manger, comment peux-tu vouloir prendre sa nourriture? Mais n'es-tu, Dieu ne t'utilise pas puissamment, vos prières, ça va se multiplier. Élie a fait ce qui n'était pas bien. Mais pour que la femme soit sauvée, mais ce qu'il a fait aussi, c'était pas mal. Ce qu'on appelle, c'est ni bien ni mal. Et ce qu'il a fait, c'est lorsqu'il a appliqué ça, il a mangé, Dieu a multiplié la farine dans la maison de cette femme. Elle était sauvée. C'est ce qu'on appelle la vie. Si Élie cherchait à avoir raison, là, la raison, la femme allait mourir, lui-même il allait mourir. Quand les gens cherchent trop à avoir raison, ils ne sont plus capables de suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille très différemment. Amen. Le Saint-Esprit travaille avec le principe de la vie. La loi, c'est ce que Paul a critiqué constamment, travaille avec le principe du bien et du mal. Voilà ce qui est bien à faire, voilà ce qui est mal. Fais le bien, et puis c'est tout. Mais ça ne donne pas la vie. Le même type de gens qui cherchent à avoir raison, qui se justifient constamment, sont des gens qui sont toujours sous l'effet du fruit du bien et du mal. Et ça conduit à la mort. Il dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir sûrement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que l'amour supporte tout. Quand vous avez l'amour, vous êtes capable de supporter les offenses. L'amour raisonne en fait comment? L'amour raisonne très différemment. L'amour raisonne comment? Quelqu'un qui a l'amour, quand tu viens l'offenser, il ne voit pas que tu l'as offensé. Il voit que tu as un problème. C'est pourquoi tu offenses les autres. Voilà comment l'amour raisonne. Celui qui n'a pas l'amour, en fait, c'est parce qu'il tient à lui-même. Donc, tu lui as fait du mal. Mais si tu es mort et puis tu as été crucifié avec Jésus, on ne peut pas te faire du mal. Si quelqu'un insulte, c'est qu'il a un problème. Celui qui est charnel, quand tu l'insultes, il conçoit que tu l'as insulté. Donc, tu n'es pas bien. Celui qui a l'amour, quand tu l'insultes, il dit, ce frère-là, il insulte. C'est qu'il a un problème. Et il l'aime et il prie pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie. Celui qui cherche à avoir raison, il dit, ce frère-là a fait une bêtise, il m'a offensé, il faut qu'on règle. Vous comprenez? Il cherche à avoir raison. Mais c'est un manque d'amour. Le manque d'amour, le fruit du bien et du mal est basé sur l'égoïsme. On pense à soi. L'amour, c'est pourquoi il est défini aussi comme la charité, les autres. Alléluia. Il raisonne pour dire, cet homme a un problème. Pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi cette soeur fait tout le temps des palabres à l'église avec tout le monde? L'amour dit, je vais prier pour la personne. L'amour ne cherche pas à chasser l'individu, à la juger pour dire qu'elle a tort ou raison. Le prêtre n'a peine à faire de tort ou de raison. Elle a déjà tort. Mais l'amour cherche à apporter la vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour supporte tout. Et j'aime ce témoignage de cet homme qui marchait un jour dans la rue. dans un couloir noir, et un jeune homme qui est venu, qui l'a bousculé, et qui a pris sa sacoche et qui a fui. Le vieillard s'est levé, il dit, jeune homme. Le jeune homme s'est arrivé, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu m'excuses mon enfant, mais tu as oublié, il y a encore un peu d'argent dans ma poche ici. Je voulais te donner ça. Et le jeune homme était touché. Il dit, non, je suppose que si tu voles, c'est que tu as des besoins d'argent. Mais moi, j'en ai encore davantage. Tiens. Vous voyez, ça c'est le comportement de l'amour. L'amour ne raisonne pas pour dire, il m'a volé. Oh, allons voir la police. Non. Ça c'est chercher à avoir raison. C'est le fruit du bien et du mal. Alléluia. Ça n'apporte pas la vie. Et cet homme, par ce comportement, a amené ce jeune-là à se convertir. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la vie. La vie raisonne pour sauver les autres. Elle veut donner la vie aux gens. Elle ne raisonne pas pour avoir raison. Pour dire, je suis dans le droit. Et puis tu es dans le droit, et puis ça fait quoi? Alléluia. Mais la vie calcule autrement. Le principe essentiel de la vie, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si vous mangez le fruit de l'arbre de vie, vous allez vivre. Mais si vous mangez le fruit du bien et du mal, vous allez mourir. Et le fruit de l'arbre de vie, aujourd'hui, c'est Jésus. Il est venu au temps marqué. Parce qu'au début, Dieu avait dit aux anges de barrer pour ne pas qu'ils aient accès au fruit de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Mais le temps est arrivé où on a accès au fruit de l'arbre de vie pour vivre éternellement. C'est en croyant en Jésus. Alléluia. Et en appliquant les principes de Jésus. L'amour supporte tout. Amen. Voilà ce que donc dit un Corinthien. Si dans ces différentes caractéristiques qui sont citées là, tu ne te retrouves pas, mon frère, tu ne te retrouves pas, ma soeur, sûrement c'est que tu manques d'amour. Et si tu manques d'amour, c'est possible, comme je le disais tout à l'heure, que tu manifestes beaucoup de dons. C'est possible qu'il y ait certaines choses qui agissent dans ta vie. Mais la Bible te dit que tout ce que tu vas faire, c'est nul. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit. Même si cela nous fait mal, quand moi je lis ça, ça me fait mal. Je dis, mais Dieu, c'est quand même assez fort. Mais pourtant, c'est la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend concrètement? Cet amour-là est manifesté envers qui? Selon ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 24, en ce qui concerne les deux commandements, cet amour, et je vais terminer par cette partie, cet amour est manifesté envers Dieu. On doit aimer Dieu plus que tout. Et cet amour est manifesté de façon semblable aux autres qui sont autour de nous. La Bible dit, en Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Dieu dit, « Tu vas l'aimer de toute ta force, de toute ta capacité. » Ça veut dire tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Patience dans les œuvres de Dieu. Supporter, persévérer, pardonner, croire pour Dieu. Alléluia. Toute la définition que Paul donne sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 13, voilà ce que Dieu veut que nous appliquions. Mais Dieu d'abord. Dis à ton voisin Dieu d'abord. Mes amis, retenez ceci. L'amour, c'est ceci-là. Dieu dit qu'il veut que tu le cherches premièrement. Et je le dis souvent, beaucoup cherchent Dieu, mais le cherchent deuxièmement. Beaucoup cherchent Dieu, mais le cherchent troisièmement. C'est un manque d'amour pour Dieu. C'est un manque d'amour pour Dieu. Et je crois que je l'exprimais ici en donnant l'exemple de Caïn puis d'Abel. Pour vous montrer l'exemple, ce que, comment l'amour fait la différence entre les choses. Caïn s'est levé en Genèse chapitre 4, verset 1. Caïn s'est levé le premier, il est parti faire une offrande à Dieu. Abel s'est levé aussi, il a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau. La Bible dit que Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Mais Caïn n'a pas fait son offrande au diable. Caïn s'est levé avant son frère pour aller faire son offrande à Dieu. Mais Dieu n'a pas approuvé son offrande. Et puis Dieu n'a pas approuvé Caïn lui-même. Il y a deux choses. Il n'a pas aimé l'offrande et puis il n'a pas aimé Caïn. Abel est venu, la Bible déclare qu'il a porté les premiers-nés de son troupeau. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et il a approuvé Abel. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn? Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn parce que, vous savez, il y a un élément qualificatif qui est donné au niveau de chaque offrande. Je pense que c'est pour ça que Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Lorsqu'il est question de l'offrande d'Abel, il est parlé des premiers-nés de son troupeau. Lorsqu'il est parlé de l'offrande de Caïn, il n'est pas cité ses premiers fruits. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il a offert des fruits à Dieu. Ce n'est pas le problème. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas pensé à Dieu premièrement. Il a pensé à lui d'abord. Et puis après, il a pensé à Dieu. Il n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas péché. Mais comme Dieu n'a pas eu la première place, Dieu n'était pas content. Est-ce que vous comprenez?
Le problème n'est pas de faire des offrandes à Dieu. Le problème n'est pas de venir à l'église tout le temps. Le problème n'est pas de faire des prières à la maison. Le problème est quelle est la place et la position de Dieu dans ton cœur. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je dis bien premièrement. Si le Seigneur dit premièrement, c'est que quelques-uns peuvent chercher Dieu deuxièmement. D'autres peuvent chercher Dieu troisièmement. Certains peuvent chercher le Seigneur quatrièmement. Je dis même quand tu es quatrième de la classe, c'est un bon rang. Mais pour Dieu, ce n'est pas la bonne place. N'est-ce pas? Quand tu étais deuxième en classe, tu as bien travaillé, non? Mais si Dieu est deuxième, il n'est pas content. Et le premièrement, c'est quoi? Certains s'aiment plus que Dieu. Le premier qui est dans notre cœur, souvent, c'est nous-mêmes. Après nous, il y a notre famille ou bien notre boulot. Il y en a qui sont prêts à tuer leur famille pour leur travail, ça dépend. Ainsi de suite. Après le boulot ou bien la famille, en deuxième ou troisième position, vient Dieu. Ça, c'est la plupart des chrétiens. Dieu n'est pas le premier. Nous-mêmes, nous sommes les premiers. C'est parce que tu es le premier qu'on peut t'offenser. C'est pas que tu dis, ce frère-là m'a fait du mal. C'est parce que tu étais en premier, on t'a fait, c'est parce que tu existes qu'on t'a fait du mal. Si ton moi était mort, on t'aurait pas fait de mal. Amen. Alléluia. Dieu en première position. Avant tout. C'est ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Mes amis, donnez à Dieu la primauté dans votre vie. Ça se voit dans la capacité de faire vos offrandes. Ça se voit dans votre don pour l'Éternel. Là, on est en train de construire un merveilleux temple pour la gloire de Dieu. Quel sacrifice allez-vous faire pour le Seigneur? Alléluia. Deuxièmement, Dieu n'a pas approuvé Caïn parce que Caïn n'aimait pas Abel. Parce que d'abord, il n'a pas aimé l'offrande. L'offrande, c'était par rapport à Dieu. Il dit, Caïn, toi-même, je ne t'aime pas. Je n'étais pas, pas que je ne t'aime pas, mais je n'étais pas approuvé. Je n'étais pas approuvé. Pourquoi? Parce que je dis, Caïn n'aimait pas Abel. Si Caïn aimait Abel, il ne l'aurait pas tué. Je dis, on ne peut pas tuer son frère parce qu'il a été approuvé mieux que nous. C'est que ça prouve qu'on ne l'aimait pas. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et puis il réussit. Toi, tu n'as pas réussi l'examen. Et pour ça, tu vas vouloir être nuisible dans sa vie. C'est qu'avant ça, tu n'aimais pas. Parce que quelqu'un qu'on aime, on est toujours content de son succès. Abel a été approuvé. Tu dois venir dire, Abel, je suis fier de toi. Prochainement, je ferai mieux. Mais tu ne peux pas désirer parce qu'on l'a approuvé, vouloir le tuer. C'est qu'avant, tu n'aimais pas. Quand il n'aimait pas son frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà ce plan en deuxième position. Caïn n'aimait pas Abel. Frère, il faut que nous nous aimons les uns les autres. Le commandement de l'amour, je termine avec ceci, en ce qui concerne les autres, est semblable au commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si vous n'aimez pas les frères avec lesquels vous êtes, si vous n'êtes pas prêt à leur pardonner leurs fautes, leurs péchés, à prier pour qu'ils puissent se relever. Je n'ai pas dit de laisser un frère pécher. C'est parce que je n'ai jamais dit de tolérer. La tolérance n'est pas une. Je vous dis, la tolérance n'est pas une vertu biblique. Tolérer. Ça veut dire quoi, littéralement, hein? Ça veut dire c'est accepter ce qu'il fait et puis ne rien faire. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit de pardonner. Pardonner te fait des reproches. Et pardonner t'aide à changer. Je ne sais pas si vous comprenez. Tolérer te laisse. Il dit par exemple, c'est un voleur, je tolère. Mais je le laisse, il est voleur et puis c'est fini. Ça, c'est pas bon. Mais pardonner, je pardonne ce qu'il m'a fait, je laisse tomber. Mais ça va jusqu'à aider le frère à se relever. Alléluia. Aimer, c'est ça. Pas tolérer. Il faut aimer les gens. Pas tolérer leurs fautes. S'ils font des erreurs, il faut les aider. Il faut qu'on s'entraide mutuellement. Et je lis ce passage avec lequel on va terminer pour prier, qui parle de l'amour des autres. Non seulement dans l'église, on doit être patient les uns avec les autres. Et si cela n'est pas, tu vas nous rejeter. Selon ce qu'il dit dans la Odyssée. Et ce dernier passage dans la Bible, qui nous le montre encore plus clairement. Matthieu 25, verset 31, il est dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire, quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, aller dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Quand j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà un passage qui parle du dernier jugement, du jugement de Dieu. Dieu dit que lorsqu'il sera sur son trône, il va mettre les justes à sa droite et les injustes à sa gauche. Et voilà le jugement qu'il va leur apporter. Il dit, j'étais en prison, il dit les justes, entrez au paradis. Parce que j'avais des problèmes, vous m'avez aidé. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous êtes venu vers moi. Et les justes seront étonnés. Il dit, mais ah Jésus, quand avons-nous vu dans de tels problèmes et t'avons-nous aidé? Il dit, non, quand vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. C'est pour ça que Jésus ne dit pas, c'est pas parce que, il dit, vous êtes sauvés parce que vous avez cru en moi. Je ne dis pas que le fait de croire en Jésus, ne pas croire en Jésus, est déterminant. C'est important de croire en Christ. C'est la première des choses. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le début de la vie chrétienne. Dieu attend de nous des œuvres. Et Dieu veut que nous produisions l'amour. Et l'amour se voit dans, ça commence dans le cœur, avec les attitudes que j'ai citées en 1 Corinthiens chapitre 13. Mais l'amour ne reste pas seulement dans le cœur, ça se manifeste par des actes concrets. Et si le fruit n'est pas manifesté, Dieu considère que vous n'avez pas l'amour, il vous rejette. Et ici, le Seigneur dit à ses disciples, entrez dans le paradis. Non seulement c'est vrai que vous avez cru en moi, mais j'étais nu, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Il dit, mais Jésus n'a jamais été en prison. Il dit, non, quand vous l'avez fait, c'est plus petit, c'est moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux qui sont allés en enfer, ils sont allés pourquoi? Pour les mêmes problèmes. Mais il dit, Jésus, quand avons-nous vu dans les difficultés, puis on n'a pas voulu t'aider? Frère, je ne crois pas que si Jésus arrive en Côte d'Ivoire, on dit Jésus en prison, nous tous on va le voir en prison. On dit Jésus n'a pas de lieu où dormir. Toute l'église, Seigneur, ma maison. Jésus dit, c'est pour ça que ces gens disent, il dit, Seigneur, nous on n'aurait pas pu te voir, toi Jésus, et puis ne pas nous occuper de toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, non. Il y avait des gens qui étaient autour de vous qui étaient en prison. Vous n'avez jamais allé leur rendre visite. Vous n'avez jamais rendu visite aux malades dans les hôpitaux. Vous n'avez jamais fait du bien. Quelqu'un était nu. Tu remarques qu'il vient chaque fois à l'église, n'a pas de chaussures. Tu n'as même pas pensé à lui donner une chaussure. Tu crois que venir à l'église, c'est venir chanter, louer seulement. La communion fraternelle, s'entraider, c'est la vie chrétienne. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas pour venir tous les dimanches écouter la prédication et puis chanter. C'est pour vivre la communion fraternelle. Nous entraider. Tu ne peux pas dire que tu aimes et puis on a un frère, il y a des frères qui sont là, tu as les moyens de leur acheter, tu sais quel problème ils ont. Et même si tu ne sais pas quel problème ils ont, tu ne peux pas te contenter de faire un culte dimanche après le culte. Tu sais, les gens puis tu rentres à la maison. Ça, c'est pas un culte, tu as raté ton culte. Je dis souvent aux gens, on ne vient pas à l'église juste pour écouter la prédication. Ça, c'est très charnel. Les gens qui disent, moi je viens dans cette église, je suis mon culte, je finis, ils saluent mon voisin, je rentre chez moi. Parce que les gens de cette église-là, quand tu commences à rire avec eux, maintenant ils vont te marcher sur les pieds. Ma soeur, tu es Chanel, et ce que tu fais là, c'est pas bon. Oui, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. La vie chrétienne, quand vous venez à l'église, vous venez pour deux choses: entendre la parole de Dieu, partager le repas du Seigneur, mais communier avec les frères. Il y a deux commandements essentiels: Dieu et le semblable. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne t'occupes pas de ton frère. Mais je t'ai dit la vérité, quand tu vas t'occuper de ton frère, il va te vexer. Quand tu vas t'occuper des gens, ils te feront du mal. Mais ce qu'ils vont te faire, c'est pour ton bien. Parce que le jour où tu vas arriver à supporter tout le monde, c'est que ton amour aura grandi. Comment tu peux savoir que tu as l'amour si tu n'es pas confronté à des gens qui viennent te choquer? La Bible déclare que l'amour supporte tout. Comment tu peux savoir que tu supportes tout? Il faut qu'un vexeur arrive vers toi, mon frère. Il faut que quelqu'un vienne te blesser. Alléluia. Amen. Alors tu ne sauras jamais que tu as l'amour si tu ne t'approches pas des frères. Tu ne sauras jamais que tu as l'amour s'il n'y a pas de frères qui vont marcher sur ton pied. Et lorsque tu vas découvrir qu'il y a des caractères que tu n'es pas capable de supporter, au moins tu auras un sujet de prière pour dire, Seigneur, je me suis rendu compte que mon amour n'est pas parfait. Parce qu'il y a tel individu que je ne supporte pas. Et tu vas prier pour que ton amour puisse grandir. Mais si tu ne le fréquentes plus, comment est-ce que tu peux évoluer? Tu seras vomi. comme l'église Laodicée. Tu seras vomi. Fréquentons-nous. Ça, on va se blesser, c'est pas grave. Mais au moins, quand tu sais ces choses, tu dis, Seigneur, je te bénis. Ce frère, la dernière fois, m'a parlé mal. Hein. Depuis qu'il m'a parlé mal, j'ai plus envie de lui saluer. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu veux que je grandisse. C'est pourquoi tu as suscité ce frère. Si tu avais toujours un frère qui était gentil avec toi, l'amour, oh, ma soeur, mon frère, comment tu peux savoir que toi, ton amour n'est pas parfait? Comment tu le sauras? Il fallait que ce frère-là, immature dans sa foi, c'est vrai, qui n'a pas raison, c'est vrai, mais il fallait qu'il existe et qu'il vienne te choquer. Et je te dis que dorénavant, si tu vois le frère, embrasse-le, parce que Dieu est passé par lui pour te montrer tes limitations. Va lui faire un grand embrassage pour dire, frère, Dieu est passé par toi pour te montrer mes limites. Par toi, le Seigneur veut me montrer où je m'arrêtais. J'ai prié Dieu pour être parfait comme lui. Si tu n'étais pas là, je n'aurais pas su que mon amour n'était pas parfait. Mais par ta faiblesse, Dieu a pris pour me fortifier.